Bonjour à chacun. À ces moments difficiles de deuil, avec notamment le départ de notre sœur Françoise cette semaine, mais aussi pour plusieurs personnes, le décès de parents ou de proches ces derniers temps, notre meilleur réflexe est de nous réfugier dans l'intimité et la communion de notre Dieu, notre consolateur, notre défenseur, notre soutien, notre refuge. J'espère, et je suis sûr, que c'est ce que vous faites, c'est le bon réflexe, c'est un besoin. Et dans ce moment-là, en tout cas, c'est vrai pour moi, oui, nous avons un besoin particulier de sentir sa présence, d'être assuré, rassuré de son amour, d'être entouré et rempli de sa paix chaleureuse, fortifié dans nos certitudes et notre espérance. Et Dieu répond assurément à ce besoin. Merci au notre Dieu. Et je prie que ce soit ce que vous expérimentiez tout particulièrement. Moment d'intimité privilégié avec Dieu. En y réfléchissant, je décrirais plutôt ces moments comme un temps silencieux, un temps calme, d'étreinte dans les bras de Dieu, comme un enfant calmement dans les bras d'un de ses parents. Silence. Pourtant, ce matin, je dois continuer notre thème de l'écoute de la voix de Dieu. Il y a d'autres voix qui s'élèvent, que nous avons commencé le mois dernier. On pourrait croire cela contradictoire, mais ça ne l'est pas du tout, évidemment. Contrairement à nos stéréotypes et schémas de communication tout faits, Dieu parle aussi souvent dans le silence, en silence. Alors c'est bon, nous ne sommes pas hors sujet. À l'écoute de la voix de Dieu. La dernière fois, c'était début janvier, je fais un rapide résumé. Nous avons évoqué comme exemple de départ le roi Salomon, qui au début de son règne avait, avec humilité, demandé à Dieu « Donne-moi, s'il te plaît, un cœur qui écoute. » Une prière alors exaucée, mais une prière et une attitude que Salomon n'avait pas renouvelée et entretenue tout au long de sa vie, au point finalement, malheureusement, de se détourner de Dieu, malheureusement. Nous avions souligné que nous avions effectivement toujours une volonté propre que nous pouvons aligner sur celle de Dieu, ou pas. Et avec la possibilité de nous tromper, ou si nous tombons, de le reconnaître, de demander pardon, d'accepter le pardon, et de nous remettre à l'écoute de Dieu, ou pas. Avoir un cœur qui écoute. Rester avec un cœur qui écoute. Nous avons aussi souligné que Dieu pouvait parler de nombreuses façons différentes. J'ai d'ailleurs pas oublié que je vous dois une liste de versets avec des exemples que je ferai cette semaine normalement, avec le complément d'aujourd'hui. Et nous avons souligné que l'essentiel pour discerner sa voix était bien sûr de le connaître. Toujours en accord avec la Bible, parole de Dieu écrite pour nous. Si nous connaissons Dieu, son caractère, ses promesses, ses intentions, alors nous saurons reconnaître sa voix. Si nous connaissons Dieu, son caractère, ses promesses, ses intentions, alors nous saurons reconnaître sa voix, quelle qu'en soit la forme ou le mode d'expression. Et nous saurons aussi rejeter ce qui ne vient pas de lui. Car ne soyons pas naïfs, et on l'a évoqué aussi, le diable, qualifié par Jésus de menteur et de père du mensonge, essaye lui aussi de nous parler et de nous tromper. Tout ce que Dieu fait, le diable essaye de le saboter ou de le plagier pour nous tromper. Ne l'oublions pas, soyons vigilants, mais n'ayons pas peur. Mais apprenons à discerner. Discerner. Et parmi quelques caractéristiques de la voix de Satan, j'ai relevé 7 points. Certains se recoupent peut-être, mais tu peux montrer la première image, Fred. Satan pousse au péché par la tentation. Satan pousse au péché par la tentation. Il a même essayé de faire tomber Jésus. On peut lire ça en Matthieu chapitre 4. Et dans cet exemple de tentation de Jésus, et je vous invite à relire chez vous, Satan utilise même de véritables paroles bibliques, mais il les utilise avec une intention mauvaise. Il les détourne de leur intention divine afin de pousser Jésus à forcer la main de Dieu. Satan pousse au péché par la tentation, et même s'il ment en essayant de nous faire croire que cette tentation vient de Dieu, ne doutons pas. La tentation ne vient jamais de Dieu, comme l'affirme la Bible. Jacques, chapitre 1, verset 13 notamment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Donc soyons-en sûrs, quelque chose qui pourrait nous pousser à pécher, à faire quelque chose de mal, même un mal insignifiant, duquel un grand bien pourrait sortir, comme dit une expression, un mal pour un bien, suprême mensonge, non, ça ne peut pas être la voix de Dieu. Satan accuse. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Satan est l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu. Mais Romains 8, 33 ajoute, « Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. » Une voix qui vous accuse, ou qui accuse un frère ou une sœur, n'est pas la voix de Dieu. Le diable condamne, Dieu pas. On pourrait dire, mais si, Dieu aussi condamne. Il me semble qu'il y a des exemples dans la Bible, non ? Faux semblant, ou en tout cas considération incomplète, le jugement de Dieu est effectivement annoncé dans la Bible, et des exemples de mise en œuvre de sa colère de Dieu existent effectivement. Mais Dieu ne condamne jamais celui qui se repent. Au contraire, il le pardonne. Dieu ne condamne jamais celui qui se repent, au contraire, il le pardonne. Plusieurs versets nous l'attestent. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Romains 8, verset 1 ajoute encore, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce sont les promesses de Dieu. Et comme j'aime à le rappeler, Dieu est engagé par ses promesses. Il tient toujours ses promesses. Satan fait douter et déstabilise par l'incrédulité. Relisez par exemple l'histoire de la chute en Genèse chapitre 3 qui commence par cette parole pour semer le doute. Dieu a-t-il vraiment dit ? Ce n'est pas dans le caractère de Dieu de faire douter. Satan amène la division, la confusion, le trouble. Relisez Galates 5, verset 20, qui liste entre autres les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, comme ne venant clairement pas de l'Esprit de Dieu. À tort ou à raison, c'est pourtant tellement rapide de se vexer, de se mettre en colère, d'avoir des paroles blessantes, ou d'être blessé par d'autres paroles. Pas plus tard que cette semaine, j'ai pu être témoin d'une querelle entre personnes de l'Église. Il n'y a que Satan qui se réjouit de cela. Mais ces personnes ont eu le bon réflexe, elles n'ont pas écouté la mauvaise voix qui les poussait dans la mauvaise direction. Au contraire, toutes les deux se sont mises devant Dieu et ont prié pour que Dieu les aide, les apaise, les guérisse des blessures, et une démarche de pardon a rapidement pu être faite. Et Dieu se réjouit de cette réconciliation. Et moi aussi. Dieu nous transforme. Il transforme notre logique humaine de réaction souvent épidermique en une logique divine de pardon. Satan amène la peur. Peur de l'échec, peur du rejet des autres, peur du rejet par Dieu, peur de ne pas être assez bon, etc., etc. Il nous pousse à remettre en question notre identité en Christ. Il nous attire dans la peur des autres, et Proverbe 29, verset 25, par exemple, nous dit que « La crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. » Le diable veut que nous ayons peur de Dieu, tout l'inverse de la foi, qui est confiance en Dieu. Et ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Car dit un autre verset, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Enfin, Satan séduit. Daniel 11, 32 dira, « Il séduira par des flatteries, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Il séduira par des flatteries, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tiens, connaître Dieu. On n'a pas déjà parlé, ça ? Etc. Toutes ces choses paraissent assez évidentes, dites comme cela, mais on le sait, ce n'est pas toujours si facile. Analysons ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous lisons, ce que nous percevons, et faisons attention à nos réactions naturelles. Si nous connaissons bien Dieu, si nous connaissons bien sa parole, alors nous saurons que ce qui a les caractéristiques de ce que nous venons d'énumérer ne peut pas venir de Dieu. Pas toujours facile. L'ennemi est fort et rusé, mais n'oublions pas que nous sommes en Christ, avec le Tout-Puissant. Appuyons-nous sur lui, lui seul, et n'écoutons pas la mauvaise voix. Bon, assez de publicité pour l'ennemi. Pardon. Assez de publicité pour l'ennemi. Abordons plutôt quelques aspects de l'écoute de Dieu. Tu peux mettre sur la deuxième diapo. Nous nous étions aussi posés, certes rapidement, quelques questions générales concernant l'écoute de la voix de Dieu. Vous vous souvenez peut-être. Il y avait entre autres ces questions. Qu'est-ce qui est plus difficile pour vous de croire ? Que vous parlez à Dieu, personnellement, que Dieu vous écoute en personne, que Dieu vous parle personnellement, que vous pouvez entendre la voix de Dieu. De prime abord, on pense peut-être que ce sont des questions pour des non-chrétiens, des gens qui ne connaissent pas du tout Dieu ou qui sont en train de le découvrir. Moi, je pense qu'on doit régulièrement se les reposer, pour vraiment prendre et garder conscience, pleinement s'approprier cette possibilité de dialogue, qui est une grâce divine et pas un dû, et quelque chose à consciemment entretenir et développer. Entretenir et développer ce dialogue. Quel vous semble être le plus grand obstacle pour vous dans l'écoute de la voix de Dieu ces temps-ci? Quel vous semble être le plus grand obstacle pour vous dans l'écoute de la voix de Dieu ces temps-ci? Nous ne pourrons pas y répondre en détail ce matin. Réfléchissez-y simplement en vous mettant devant Dieu. Et je sais que cela vous aidera, m'aidera aussi dans mon échange avec lui. Moi, j'aime bien la question suivante, même si elle est très générale. À quoi reconnaissez-vous qu'une personne ne vous écoute pas quand vous lui parlez ? À quoi reconnaissez-vous qu'une personne ne vous écoute pas quand vous lui parlez ? Nous pourrons faire le test à la fin du culte. Elle regarde ailleurs. Pire, elle regarde sa montre ou son smartphone. On sent qu'elle aimerait être ailleurs ou parler à quelqu'un d'autre. Elle répond à côté de la plaque à ce que vous lui dites. Elle n'a que 30 secondes à vous consacrer. Elle n'a que deux vagues. Pour faire semblant de vous écouter, mais elle pense à autre chose. Elle se gratte la tête d'un air inattentif. Elle vous coupe sans cesse dans ce que vous dites pour placer ce qu'elle, elle veut dire. Elle trépigne sur place et montre de l'impatience. Elle ne vous balance que des phrases toutes faites, etc., etc. Être à l'écoute de l'autre, c'est pas facile, n'est-ce pas? Je me remets en cause à chaque fois. Depuis hier que j'ai préparé ce message, je dis « Oh là là, il faut que je fasse aussi attention, moi ». C'est vrai qu'on parle souvent avec des gens, puis on pense à autre chose, il y a quelque chose qui nous traverse l'esprit, on voit quelqu'un qui passe, « Ah mince, c'est vrai, il faut que je lui parle à lui aussi », etc., etc. Et donc, en écho à ces remarques, à quoi est-ce que je reconnais que je suis en posture d'écoute de Dieu ou pas? À quoi est-ce que je reconnais que je suis en posture d'écoute de Dieu ou pas? Pendant ma lecture de la Bible, mes pensées sont ailleurs. En fait, je n'ai que 30 secondes à lui accorder. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment le temps ni de lire, ni de méditer, de vraiment prier. J'aimerais plutôt être ailleurs ou parler à quelqu'un d'autre. J'ai un truc coincé en travers de la gorge à cause d'un tel ou d'une telle. Il ou elle m'a fait trop mal pour que je lui pardonne. Je veux que Dieu réponde oui à ma question, rien d'autre ne me satisfera. Ma prière n'est que machinale ou stéréotypée. Non, non, aujourd'hui ça va, je sais ce que je dois faire. Pas vraiment besoin que j'embête Dieu avec ça. Il a autre chose à faire. Je suis trop fatigué pour écouter Dieu en ce moment. Bon, de toute façon, il est fâché avec moi, il ne veut plus me parler. Etc., etc. Être à l'écoute de Dieu. Pas toujours facile non plus, n'est-ce pas? En outre, reconnaissons que souvent le problème de base, c'est notre attitude de cœur. En particulier, Dieu ne nous répond pas nécessairement si nos motivations sont mauvaises. Frédéric Meyer, un écrivain anglais, disait « Aussi longtemps que demeure une pensée davantage personnelle, ou une idée de recevoir la louange et l'approbation des hommes, ou un but de se grandir soi-même, il sera tout simplement impossible de trouver le projet de Dieu nous concernant. » Quelle est notre motivation pour écouter Dieu? Il n'y a pas de recette miracle ou de véritable technique pour être à l'écoute de Dieu. Nous l'avons déjà dit. Alors vous me pardonnerez si je ne donne que des pistes de réflexion, des généralités ou des exemples. Charge à chacun d'entre nous ensuite de réfléchir, méditer, prier. Et alors, je pense et je suis sûr, Dieu assurément parlera et nous l'entendrons. Pour la suite de ce message, je reprendrai simplement deux façons de faire, des principes que deux chrétiens utilisent ou utilisaient en la matière et qui peuvent nous guider, je pense, en lien avec la prière et notre culte personnel notamment, qui sont des moyens privilégiés de communion et de communication avec Dieu, pendant lesquels il nous parle si nous nous mettons réellement à son écoute. Je vais mettre la suivante. La première méthode est celle d'une missionnaire néo-zélandaise qui s'appelle Joy Dawson, que l'on trouve dans un de ses livres, « Principe essentiel pour une intercession efficace ». Et nous pouvons élargir facilement ça au principe essentiel de l'écoute de Dieu. Elle fait une liste de principes. Je ne partage pas nécessairement tout ce qu'elle écrit, mais j'en ai retenu 5 points ce matin. Premièrement, assurez-vous que votre cœur soit pur devant le Seigneur en donnant au Saint-Esprit assez de temps pour vous convaincre d'un éventuel péché non confessé. Ça semble tellement logique, mais pourtant comme moi, vous réagirez peut-être en minimisant cet aspect ou en l'esquivant quelque peu. Nous savons cependant chacun ici où nous en sommes sur le sujet. Et nous savons au plus profond de nous que c'est essentiel en tout cas. Le péché est un nuage, même un obstacle, une grosse interférence, voire même une cause de perte momentanée de réseau sur la ligne de communication entre Dieu et nous. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas que l'adultère ou le meurtre qui soit péché. l'ombre d'un soupçon de début de convoitise est comme un adultère, disait Jésus, un péché. Le début du commencement de la moindre rancœur contre un frère ou une sœur est comme un meurtre, disait encore notre Seigneur, un péché. Le psaume 66, verset 18 nous dit « Si j'avais chéri le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté, ni parlé probablement, à part pour me montrer, si j'en suis dans une recherche sincère, d'abord ce problème. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Disait encore David dans le psaume 139. Alors, il ne s'agit pas de se rabaisser sans cesse, ni de chercher des problèmes là où il n'y en a pas, mais simplement de saisir le pardon et la purification offerte en Christ, comme on l'a rappelé tout à l'heure, pour être pleinement dans sa paix. C'est le bon point de départ, l'indispensable point de départ. Deuxièmement, reconnaissez que vous ne pouvez pas réellement prier ni avancer sans la direction et la force du Saint-Esprit. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, nous dit Romains 8, 26. Troisièmement, renoncez à votre propre imagination, à vos désirs et à vos fardeaux concernant les sujets pour lesquels vous pensez devoir prier ou agir. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, dit un proverbe. Mes pensées ne sont pas vos pensées, ajoute le prophète Ésaïe. Quatrièmement, demandez à Dieu que son esprit soit le maître absolu en vous. Demandez à Dieu que son esprit soit le maître absolu en vous. Laissez-vous constamment remplir par l'esprit, nous encourage l'apôtre Paul. Ensuite, remerciez-le de le faire. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et cinquièmement, louez-le, maintenant, dans la foi, pour l'expérience de prière ou de vie remarquable que vous allez faire. Dieu est un Dieu merveilleux et il fera quelque chose qui correspond à son caractère. Oui, préparons notre cœur à l'écoute de Dieu, par exemple avec ce modèle que nous venons de parcourir, qui nous pousse dans la consécration et la sanctification, deux préalables nécessaires, je pense, pour pouvoir être à son écoute. Et il est suggéré de lui poser deux questions à Dieu. Premièrement, Jésus, et tu peux me donner sur la suivante, qu'est-ce que tu penses de moi ? Jésus, qu'est-ce que tu penses de moi ? Père, quels sont tes plans et tes projets pour moi ? Père, quels sont tes plans et tes projets pour moi ? Ce n'est pas magique, ce ne sera peut-être pas immédiat, mais je crois que Dieu parlera ensuite d'une façon ou d'une autre, en son temps. En tout cas, nous serons prêts à l'entendre par la Bible, par des pensées, par des circonstances, par une conviction, par le conseil de quelqu'un, etc., etc., en accord avec son caractère, ses promesses, ses intentions. Et je ne peux m'empêcher de rapprocher ça de ce passage très connu de 1 Samuel, chapitre 3, verset 10, où le jeune Samuel dit à Dieu sur les conseils d'Élie, « Parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. » Bon, vous me direz, lui, Samuel, il avait un avantage, un très gros avantage. Dieu lui a effectivement d'abord parlé de façon audible, et seulement ensuite, lui, il a simplement dit « J'écoute. » Trop facile. C'est vrai. Nous sommes peut-être plus souvent dans l'inverse, nous écoutons en attendant qu'il parle. mais peut-être des fois n'est-ce qu'une impression, n'oublions pas que Dieu fait très très souvent, sinon toujours, le premier pas. Mais savons-nous l'entendre ? Savons-nous l'entendre ? Nous connaissons tous ce verset d'Apocalypse que nous associons à la conversion qui dit, Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Je crois qu'on peut souvent en élargir la portée. Oui, ayons sincèrement envie d'entendre sa voix. Dieu frappe peut-être déjà depuis quelques heures, voire quelques jours, voire quelques années. Et pour finir, quelques paroles de bon sens et de sagesse, me semble-t-il, d'un ancien serviteur de Dieu, qui a prouvé par sa vie et la véracité de son écoute et de son obéissance qu'il était à l'écoute de Dieu. Ces paroles se trouvaient sur un vieux flyer édité à Lausanne en 1895, ça ne date pas d'hier, les mots d'un certain Georges Müller. Et elles se rapprochent, vous le verrez, sur certains aspects à ce que l'on vient déjà de voir, comme quoi entre la Nouvelle-Zélande et la Suisse, entre le 21e siècle et puis le 19e siècle, à travers le monde, à travers les âges, il y a certainement des vérités universelles valables pour chaque chrétien, pour écouter Dieu. Il disait, premièrement, « Je cherche d'abord à m'assurer s'il n'y a dans mon cœur aucune volonté propre sur un sujet quelconque. Je cherche d'abord à m'assurer s'il n'y a dans mon cœur aucune volonté propre sur un sujet quelconque. » Les 9/10 du tourment que se donnent certaines personnes, disait-il, en général provient de ce fait. Les 9/10 des difficultés sont vaincues lorsque nos cœurs sont prêts à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Et le « quelle qu'elle soit » n'est pas toujours facile à s'approprier et à dire oui. Quand on est véritablement dans un tel état, la volonté de Dieu ne tarde pas à vous être révélée, disait-il. Deuxièmement, ce premier point acquis, je ne m'attarde pas aux sentiments et aux impressions. S'il en était ainsi, je tomberais bientôt dans de grandes illusions. Troisièmement, je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. L'Esprit et la parole vont ensemble. Si je consulte le Saint-Esprit seul, sans la parole, je puis encore me faire une illusion. Si le Saint-Esprit me conduit, ce sera toujours en accord avec les Écritures. Quatrièmement, ensuite, je mets dans la balance les circonstances. Ces dernières indiquent souvent la volonté de Dieu et d'accord avec la parole et le Saint-Esprit. Ensuite, je supplie Dieu de me révéler toute sa volonté. Je supplie Dieu de me révéler toute sa volonté. Peut-être que des fois on attend la volonté de Dieu, mais est-ce qu'on lui demande vraiment ardemment ? Ainsi, par la prière, l'étude de la parole, la réflexion, j'en viens à me former un jugement. Notre intelligence n'est pas mise au placard quand on consulte Dieu. Et selon ma connaissance et ma capacité, mon esprit étant en paix, je prends la détermination d'agir. Je prends la détermination d'agir, toujours dans un esprit de prière. Et il disait, dans les choses ordinaires et dans les transactions de grande importance, cette méthode m'a toujours réussi. Au cours de ma vie chrétienne, disait-il encore, qui comprend actuellement, c'était donc en mars 1895, il disait, ça comprenait sa vie chrétienne, une période de 69 ans et 3 mois, je n'ai pas souvenir d'avoir recherché la volonté de Dieu une seule fois avec sincérité et avec persévérance au moyen de la parole et de l'esprit. Ça peut sembler bizarre comme phrase, sans avoir été invariablement conduit sur la droite voie. Je n'ai pas souvenir d'avoir recherché la volonté de Dieu une seule fois, avec sincérité et persévérance, au moyen de la parole et de l'esprit, sans avoir été invariablement conduit sur la droite voie. Mais, et vous l'avez cette mise en garde affichée, mais lorsque la droiture du cœur et l'intégrité devant Dieu m'ont fait défaut, et que je n'ai pas su attendre avec patience le conseil de Dieu, mais que plutôt j'ai préféré le conseil de mes semblables aux déclarations de la parole du Dieu vivant, alors j'ai commis de graves fautes. Mais lorsque la droiture du cœur et l'intégrité devant Dieu m'ont fait défaut, et que je n'ai pas su attendre avec patience le conseil de Dieu, mais que plutôt j'ai préféré le conseil de mes semblables aux déclarations de la parole du Dieu vivant, alors j'ai commis de graves fautes. Voilà. On n'a pas encore fait le tour de la question bien vaste de cette écoute de la voix de Dieu, un sujet complexe, mais un sujet tellement essentiel pour nos vies, si nous le voulons renouveler, transformer par Dieu, guider par Dieu. Mais j'espère que ces idées, ces recommandations, ces mises en garde pourront vous aider, nous aideront dans notre marche avec Dieu, à grandir dans notre relation avec lui et à l'approfondir, pour qu'elle soit encore plus belle, intense et vivifiante pour sa seule gloire. Amen.